France Culture.
Gaëlle Faye, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour le troisième épisode où on va parler de musique, de vos influences, de vos albums. Mais je voudrais qu'on commence par un détour par Londres, puisque tout en étant un rêveur né, contemplatif peut-être un peu aussi, vous étiez très actif. Et au lieu de partir d'abord dans l'écriture des chansons, vous avez fait des études de commerce, vous avez fait un master de finance et vous êtes parti à Londres, comme vous le dites, dans le ventre du capitalisme. Vous avez travaillé pendant 2-3 ans dans un fonds d'investissement à la City de Londres. Vous en parlez dans des chansons, vous en parlez dans QWERTY et puis vous en parlez dans Slow Operation. C'est à peu près tout ce qui reste de cette expérience, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous n'étiez pas à votre place ?
Non. J'étais pas à ma place. C'était surtout une solution d'être rapidement indépendant, de ne pas rester vivre chez ma mère. Et puis aussi de peut-être de m'échapper de ce qui était mon environnement. J'avais l'impression qu'en France, je trouvais pas vraiment ma place. Je rêvais toujours d'aller travailler au Burundi. Je me disais que j'allais y retourner. Et que peut-être une expérience à Londres, ça ferait bien sur un CV pour trouver une place dans une entreprise. Ouais. Bon, au départ, c'était assez grisant parce que c'était des premiers vrais salaires. Une indépendance financière. Mais très rapidement, peut-être au bout d'un an, j'ai senti que... Je parle du quotidien, je parle pas forcément de Londres ou du travail en lui-même, mais c'était le quotidien, le bureau, le rythme. Ça ne me correspondait pas du tout. Je me retrouvais un peu comme quand j'étais à l'école et que je regardais par la fenêtre les oiseaux et le ciel et que j'attendais que ça passe pour retourner l'après-midi dans mon quartier. Ben, c'était un peu ça. Je regardais ma montre en me disant bon, quand est-ce que ça se termine tout ça que je rentre écrire mes chansons parce que j'écrivais des chansons. Peu à peu, je me disais mais c'est absurde, tu vas pas passer je sais pas combien de temps de ta vie dans un bureau comme ça, comme à l'école à attendre que la cloche sonne. Donc je sentais que c'était pas ce qui me faisait vibrer. Donc au départ, je travaillais. Et après, je me suis mis à taffer. Donc, taffer, c'est pour moi synonyme de tu travailles pour avoir de l'argent, pour gagner des sous, pour faire quelque chose par ailleurs.
Et écrire de la musique à ce moment-là, c'était pour vous une sorte de soupape, un souffle, un élan.
Ouais.
C'est ce qui vous permet de d'écrire depuis tout petit. Il voulait faire du hors-piste et devenir artiste.
Oui.
Ça, c'est. Il travaille sur son clavier d'ordinateur à faire des choses qui n'ont pas de sens et avec un sentiment de vide. Je reprends un peu les choses qui sont dans QWERTY et dans Slow Operation. Mais au moins, la musique, ça permet de bifurquer. Voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien, être bifurqué.
Ouais, bifurquer, exactement. Oui, et puis surtout, ça me permettait de rencontrer plein de gens un peu comme moi.
D'écrire de la musique.
Ouais, c'est parce que le soir, quand je rentrais du bureau, j'allais dans des studios à Londres, et puis dans ces milieux-là, et dans ce Londres des années 2000, tous les styles se mélangeaient. Là où c'était encore très compartimenté en France, c'est-à-dire les gens qui faisaient du rap étaient dans leur coin, les gens qui faisaient du rock étaient dans leur coin, les gens qui faisaient de l'électro étaient dans leur coin. À Londres, tout se mélangeait, tout était très fluide. C'était pour moi, c'était la vraie ville du métissage. Ça m'ouvrait des portes insoupçonnées. Ça a été salutaire de quitter la France après mon master et non pas pour mon boulot, mais surtout pour mon ouverture d'esprit artistique. D'un coup, travailler par exemple avec un groupe de musiciens de jazz, c'était quelque chose qui me semblait plus du tout complètement fou. C'était presque banal parce que ce type de mélange se faisait sans que ça pose question, sans qu'on demande « Mais attends, quel style tu es en train de faire ?» Non, je fais simplement. je fais, et puis le style, ben, à vous de mettre un nom dessus si vous voulez ou pas. Mais moi, je me questionnais pas sur mon style, je me questionnais sur ce que je voulais faire. Et donc, quand j'allais dans ces studios et que je rencontrais toutes ces personnes, je retrouvais cette joie d'être entouré de gens ouverts sur le monde, peut-être ce que j'avais perdu du Burundi, de cette école française où il y avait des gens du monde entier et où on se mettait pas de frontières et pas de barrières. Voilà, je me sentais appartenir au monde dans sa diversité.
J'ai intitulé cet épisode « Fils du hip-hop ». C'est évidemment le titre d'une de vos chansons, « Fils du hip-hop ». Vous diriez que vous êtes fils du hip-hop ?
Ouais, complètement.
L'hip-hop. Ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire que j'appartiens à la culture hip-hop, qui est une culture avec une démarche liée à la conscience du monde. C'est-à-dire, on est conscient du monde dans lequel on est. Il y a toutes les catégories hein, du hip-hop, tous les arts du hip-hop, que sont le rap, le graph, le DJing, la danse. Mais il y a une autre dimension qui est le savoir. Le savoir est une arme. C'est vraiment ce qu'on entendait dans les premiers rappeurs, des années 80-90, que par la connaissance... On va se libérer de nos conditions. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui continue de m'animer. C'est que la connaissance est une façon d'aller vers l'autre, d'aller vers soi et d'aller vers l'autre. Et puis, il y a aussi l'idée d'être maître de son destin, de ne pas attendre que l'autre nous valide. Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Le do it yourself, tu fais avec ce qui t'est donné. C'est-à-dire, si c'est juste un stylo et une table, tu crées une instru. Si tu as le verbe, tu crées un morceau. Et donc ça me parlait, cet art de cette économie de moyens, cet art du pauvre. Et puis le collectif, l'unité, l'envie de s'amuser aussi, la joie, parce qu'il y a le peace unity et le dernier c'est having fun, quoi. C'est aussi prendre du plaisir, pas oublier que la vie c'est un moment de plaisir et ce plaisir il est collectif. Donc tout ça m'a façonné, ça m'a forgé. Je pense que ça a entré en résonance avec mon enfance, avec les environnements dans lesquels j'avais été. C'était toute cette philosophie. En Afrique, on parle de la philosophie de l'Ubuntu, donc de l'autre, de la conscience de l'autre, de l'ouverture à l'autre. Mais là, c'était dans l'art. Et j'aimais bien cette idée qui est de pouvoir faire un art avec une philosophie et de rencontrer des gens qui se sentait porteur de tout ça. Moi, d'un coup, je trouvais une assise, des normes, et aussi des frères et des sœurs.
Bon, il faut dire aussi que la musique, elle a été très importante depuis que vous êtes né, Gaël Faye, parce que déjà votre père, il en écoutait beaucoup. A écouté beaucoup de musique française.
Oui.
Il écoutait Maxime Le Forestier, il écoutait Barbara, il écoutait Brel, Brassens. Mais Cabrel était vachement écouté au Burundi. Oui. Et vous avez aussi eu un choc avec MC Solar.
Oui. MC Solar et Public Enemy, c'est les premiers rap qui nous arrivent au Burundi. Et je ne sais pas, tout de suite, un sentiment qu'il se passe quelque chose là. C'était frais, c'était nouveau. Alors, d'abord, pour moi, c'était esthétique. Je me suis pas dit, tiens, je veux faire comme eux. C'est pas du tout. La première fois que j'entends des textes de rap, je me dis, c'est super de pouvoir jouer comme ça avec la langue française, sans avoir besoin de chanter, parce que c'était pas du chant, c'était de la scansion. Et puis, tous ces petits jeux de mots, en utilisant de l'argot, du verlan, une langue française que j'avais jamais entendu par ailleurs, sauf peut-être Renaud, parce que mon père écoutait aussi beaucoup Renaud, donc je me souviens aussi d'être fasciné par la langue de Renaud. Et puis l'esthétique hip-hop, qui, au-delà de la musique, il y avait aussi la façon d'être, la façon de marcher, de s'habiller, de se comporter, qui me fascinait, qui parlait aussi peut-être aux jeunes métis ou copains noirs qui étaient autour de nous, c'est que d'un coup, on avait des stars mondiales qui avaient à peu près la même couleur de peau que nous et qui avaient du style. Ouais, c'était fascinant. Mais vraiment, c'est arrivé plus tard, l'envie de faire de la musique.
Et c'est en France que vous avez fait un atelier de rap ? Vous avez découvert le rap dans un atelier, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Au lycée, je me retrouve par l'invitation d'une personne qui était dans ma classe, qui dansait, me retrouver dans une MJC. Il y avait des ateliers d'écriture, mais d'écriture pour de chansons de rap. En fait, c'était un atelier de rap. Et donc, comme j'écrivais un peu, j'ai transformé ce qui était à mes yeux des poèmes en textes de rap, donc apprendre à poser un texte sur une instrumentale, sur voilà, travailler la scansion, le flow, et puis même aussi un petit peu la gestuelle. Qu'est-ce que c'est d'un coup quand on a un texte, un micro, comment on le délivre face à un public? Tout ça, c'était nouveau, c'était assez effrayant et excitant à la fois.
Après, il y a des rencontres aussi. Vous avez participé un temps à un collectif de slammeurs parisiens qui s'appelle Champ d'encre.
Oui.
C'est là que vous rencontrez Edgar Cécloca,
oui,
avec qui vous allez créer le groupe Milk, Coffee and Sugar,
oui,
qui durera un bon petit moment.
Oui.
Album en 2009, qui est nommé Découverte au printemps de Bourges de 2011. Et puis, vous avez aussi gagné le premier prix de slam face à Grand Corps Malade. Donc, c'est aussi des rencontres qu'on fait à ce moment-là et qui permettent un enchaînement de création, un enchaînement de choses. Mais vous êtes plutôt, quand vous dites fils du hip-hop, justement, c'est plutôt le rap avec tout ce que vous nous avez dit, que le slam qui est peut-être de la poésie déclamée en musique.
Oui.
Enfin, c'est tout un ensemble de choses, mais pour vous, c'est vraiment ce que, avec toutes les contradictions du rap, que vous avez aussi chanté d'ailleurs, mais c'est vraiment ça d'où vous venez, quoi.
Oui, le slam, je dois reconnaître...
Je sais même que ça vous énerve un peu quand...
Oui, c'est-à-dire...
À un moment, il y a des gens qui vous disaient que vous étiez slammeur, non ?
Oui, mais c'est parce que j'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, slammeur. Moi, la première fois qu'on m'en parle, c'est un ami, Abkas, voilà, qui me dit il y a des soirées, dans des cafés. Toi, tu écris, tu peux venir et puis dire ton texte. Donc, j'arrive et au lieu d'avoir un DJ, il y a simplement un public et du texte a cappella. Donc, ce qui était moi des textes que je posais sur des instrus de rap, je les ralentis, j'en fais des textes a cappella, un peu comme de la déclamation poétique. Ensuite, cette dénomination, elle finit par s'installer avec la sortie du premier album de Grand Corps Malade, puis l'album Gibraltar d'Abdelmalik, où voilà, ça devient médiatisé et on oppose les uns et les autres en disant bon, il y a ceux qui sont plus politiquement corrects et puis il y a cette musique de la sous-culture, comme certains disaient, des banlieues, donc le rap. Et donc on oppose les uns et les autres alors qu'on vient du même creuset, on vient de la même culture, cette culture hip-hop. Enfin, je veux dire, moi, tous ces slammeurs là, que ce soit Grand Corps Malade ou Abdelmalik, c'est des gens qui viennent de la culture hip-hop. C'est simplement que ça prend une autre forme médiatiquement. Donc moi, je me reconnaissais pas dans cette étiquette. Et après, cette étiquette, peut-être qu'elle m'a ouvert des portes qui seraient restées closes si j'étais venu avec en disant que je fais du rap. Des gens se sont dit, tiens, c'est un slammer, peut-être qu'on va l'écouter. Je me souviens de bibliothèques ou de médiathèques qui nous invitaient. Donc je parle de Champ d'encre ou d'institutions, parce que il y avait l'idée qu'on faisait du slam et que c'était plus sympa. Sauf que dans nos textes, les textes avaient la même teneur que ce qu'on pouvait dire dans des textes de rap.
Et puis la musique est sacrément variée, elle est loin d'être a cappella. On peut l'écouter tout simplement sur le premier album que vous avez fait, Pili Pili sur un croissant au beurre, Gaël Faye, le fameux album de 2013, que vous avez mis 10 ans à écrire, et vous allez nous raconter un peu la démarche, parce que c'est toute votre histoire jusqu'à là, en tout cas, de comment on devient un artiste. Mais là, on entend vraiment des musiques, des styles, vous parliez des styles tout à l'heure, extrêmement éclectiques. On a du brass band, de la fanfare, de la musique du New Orleans, le Buena Vista Social Club, des musiques caribéennes. Vous avez aussi tous les featuring, ceux qui vous accompagnent, Ben l'Oncle Soul, Julia Sarr, il y en a beaucoup. Donc là, on entend vraiment toute la palette, enfin une palette extrêmement riche, et on est loin du a cappella.
Ah oui, non, pas du tout dans l'a cappella. Moi, j'arrive avec avec toute mon histoire, tout mon métissage, porté par le baroque de la créolité, c'est-à-dire que je suis passionné de littérature haïtienne, des romans de René de Pestre, et c'est le carnaval et il y a des saveurs, des couleurs, toute forme d'énergie, et j'ai envie que ce premier album, ce soit le pot pourri de tout ça. Pourtant, on arrive un peu dans une période où la musique se veut plus minimaliste. Moi, je prends le contre-pied. Je dis, je m'en fiche. Bon, je me suis un peu cassé les dents parce qu'après, il a fallu, au moment de faire la tournée, quand on a 30 musiciens en concert et que personne ne nous connaît et qu'on n'a pas de moyens, bon, ben, on ne peut pas partir avec 30 musiciens. Donc, il a fallu présenter cet album très foisonnant avec quelques musiciens sur scène, et c'était un peu une erreur de débutant, mais je regrette absolument pas cet album. C'est comme un manifeste, une façon de m'affirmer dans tout ce que j'étais pour la première fois.
Ouais. Bah, j'espère bien que vous le regrettez pas, c'est un album magnifique.
Merci.
À tout point de vue. Merci. Donc la chanson « À France », on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, pour dire l'exil, le déchirement, le manque, la nostalgie du pays, et c'est cette chanson qui a déclenché le reste de l'album. Et après, vous racontez votre parcours, votre départ à Londres, la rencontre de votre femme, les doutes, la mue vers l'écriture, le courage de bifurquer d'ailleurs, l'importance du hip-hop. Vous parlez à votre fille, votre première fille, Isimbi, vous chantez votre métissage, et puis viennent le Burundi, le Rwanda, avec le génocide en filigrane, les parents, l'enfance, l'ennui des après-midi sans fin. C'est un peu construit comme une histoire, en fait. Vous êtes déjà presque dans un livre.
Oui, c'est des chroniques autobiographiques. C'est comme ça que j'ai travaillé l'album. Je me suis dit, il y a eu une expérience beaucoup trop intense et de vie et de sentiments contradictoires en si peu d'années. Comment je fais avec tout ça ? Et la meilleure façon pour moi, c'était de rendre tout ça positif par de la musique, aller vers l'autre et dire, moi, je l'ai vécu en faisant le pari que peut-être quelqu'un d'autre l'a vécu et que on va se rencontrer, qu'on va discuter. C'était ça, c'était sortir d'une solitude, d'un endroit où j'avais l'impression, d'être isolé. Et donc ramener autant de musiciens, autant d'invités, c'était ça, c'était de conjurer cette solitude.
Il y a aussi la musique capverdienne, évidemment la rumba congolaise. On a des ambiances à la Curtis Mayfield et à Stevie Wonder, c'est très jazzy. Il y a Bonga aussi qui participe. Enfin bon. Et il y a un homme qui est, il me semble, Gaël Faye, très important parce qu'il est de toute l'histoire musicale qui est la vôtre. C'est Guillaume Poncelet. Guillaume Poncelet, il est à la fois le producteur de ce premier album et avec vous, compositeur. Il est trompettiste et pianiste. Comment travaillez-vous ? C'est-à-dire, est-ce que tout part des textes ? Est-ce que parfois ça part de la musique ? Est-ce que ça se construit ensemble ?
Avec Guillaume, j'ai trouvé, je ne fais pas de musique, et j'ai trouvé le musicien que j'aurais pu être. Je me dis, si j'avais été musicien, ou si je pouvais être musicien, je serais Guillaume Poncelet. Parce que je ressens sa sensibilité musicale, je la comprends. Mais jamais arrivé d'écouter une compo de Guillaume en me disant « Ah, ça me plaît pas du tout ». Parfois, ça ne marche pas avec mon inspiration du moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui c'est ce qui me pose des problèmes, c'est qu'à chaque fois, je trouve, j'adore ses compos, et mais j'ai pas les mots au moment T pour l'instrumental, et je lui dis non, mais mets-la de côté. Donc je me retrouve avec des kilomètres d'instrumental de Guillaume Poncelet. Et donc peut-être que je bloque des mélodies pour d'autres qui pourraient passer à d'autres. Et puis, mais ça faudrait lui demander. Mais j'ai cette impression que j'arrive à mettre en mots des choses que lui aimerait parfois mettre en mots. Et c'est bon, c'est pas son art. Il n'écrit pas. On a quelque chose qui nous relie. C'est, je crois, nos pères respectifs. Il avait un père. Qui écrivait aussi, un père poète, un père libre, un peu comme le mien, et qui, un peu comme mon père, lui a donné le goût de la langue. Et donc, je sais pas, c'est comme si on était fait pour se rencontrer. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en rentrant de Londres. Et je sais pas, c'était comme une évidence. Et la première fois qu'on s'est retrouvés en studio, je me suis dit, ah d'accord. C'est possible de travailler comme ça. Et l'univers est ouvert devant moi. Avec Guillaume, lorsque je lui dis « J'aimerais bien, tu vois là, sur ce texte-là, j'entends un brass band, je vois des cuivres, j'en vois 10, j'en vois 20. » Il me dit « Ouais, bien sûr, faisons-le. » Et ça, d'un coup, c'était fabuleux quoi, de se dire qu'à partir d'un texte, je pouvais après écrire mon opéra. Parce que quelqu'un avait suffisamment de connaissances musicales pour le magnifier, le rendre cohérent et complètement le fusionner à mon texte. Donc c'est
la rencontre, quoi.
Oui, pour moi, c'est la rencontre. J'espère qu'on continuera à faire des albums ensemble.
Après ce premier album de 2013, qui a d'ailleurs été enregistré entre Paris et Bujumbura, donc c'est aussi particulièrement fort pour vous. Ouais. On le voit dans ce documentaire « Quand deux fleuves se rencontrent », qui suit votre retour au Burundi. Vous revoyez votre ami d'enfance, vous retrouvez votre maison, il n'y a plus les crocodiles et les cobras, mais il y a la maison. Puisque cet album, quand même, il faut le rappeler, vous a pris 10 ans à faire. Donc après, il y a quelques EP. « Rythme et botanique » en 2017, j'aime beaucoup les titres à chaque fois. « Des fleurs » en 2018. Avec une balade brésilienne accompagnée par Flavia Coelho. Il y a un deuxième album, Lundi méchant en 2020, 14 titres. Entre mélancolie voire abattement, là c'est moi qui le dis, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je l'ai ressenti comme ça, elle a beaucoup de mélancolie, parfois des moments où on sent de l'abattement, et puis de l'espoir, de la volonté, de l'énergie, mais peut-être un petit peu plus dur, un petit peu plus sombre dans la deuxième moitié celui-là. Alors, est-ce que ça correspond ? Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Est-ce que vous l'avez créé comme ça ? Ou est-ce que c'est n'importe quoi, ce que je suis en train de dire ?
Je pense que c'est un album qui était un album de lutte contre un sentiment que le monde dans lequel on était n'avait perdait du sens. C'est là un album que j'écris pendant la crise du Covid, enfin pendant le confinement, donc avec et cette envie de se dire que le monde d'après, on continuera à se battre et qu'il y a de l'espoir, et puis en même temps se dire mais est-ce que c'est pas la limite ? Est-ce que là on n'est pas en train de vivre un moment où on va tous se refermer sur nous-mêmes, où on accepte toutes les incohérences, toute la folie de nos sociétés. C'était ce mélange-là, mais je crois quand même que j'étais animé par une envie de vie malgré tout. C'est aussi le titre quoi de l'album, c'est ça, c'est le lundi méchant, c'est que le quotidien, il est difficile. Et les lundis méchants à Bujumbura, c'est cette idée que on crée la fête en dehors du cadre que nous impose la société. Normalement, on sort en boîte de nuit le week-end parce que c'est là qu'on nous dit qu'il faut sortir en boîte de nuit. Et lundi méchant, c'est ce pied de nez aux conventions où à Bujumbura, les gens sortent en boîte de nuit le lundi après le travail. ne dorment pas et vont directement au travail le mardi matin pour dire on se réapproprie notre temps. Donc il y a de ça. Je crois que ce qui peut-être vous fait ressentir cette mélancolie, c'est la musique. La musique est peut-être plus froide parce qu'elle est beaucoup plus électronique. On passe d'un album Pili Pili sur un croissant au beurre qui est live quasiment, qui est avec des vrais instruments, à un album fait avec l'ordinateur, avec aussi des logiciels de traitement de voix. Mais ça, c'est aussi mon envie d'exploration, parce que pour ne pas m'ennuyer, j'ai besoin de tenter des choses, de poursuivre ma quête. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment vers quoi je vais, mais pour le savoir, j'ai besoin d'essayer des choses. Donc c'est vrai que c'est deux albums très différents. Mais la mue s'est quand même opérée à travers les EP. C'est pour ça que c'est pas mal de faire des EP entre deux albums.
Mauve Jacaranda en 2022, par exemple.
Oui.
Après, il y a un drôle d'album éphémère,
ouais,
avec Ben Mazuet et Grand Corps Malade. Pas mal d'humour aussi, celui-là.
Mais parce que c'était une colonie de vacances. C'est-à-dire que voilà, je les connais depuis longtemps. J'ai connu et Grand Corps Malade et Ben Mazuet avant même que la musique devienne leur métier. Je les connais avant qu'ils deviennent ces artistes confirmés. Et donc on a un lien de camarades, un lien de copains qui se voient pour boire des verres et puis on se retrouve dans cette période-là encore autour de la pandémie, des restrictions sanitaires pour les concerts, pour les sorties d'albums, pour plein de choses. Et comme on est un peu empêché et qu'on se voit, on se dit on n'a qu'à prendre ce temps que l'on a là pour s'enfermer une semaine dans un studio et voir ce que ça donne. Donc on fait un peu ce pari-là. Personnellement, je pensais qu'on n'allait pas réussir à écrire une seule chanson, parce qu'on partait qu'une semaine, qu'on s'amuse quand même bien tous les trois, et puis de découvrir que je suis avec des artistes qui sont au sommet de leur art. Donc moi, ça m'a mis dans une émulation fabuleuse, et je crois que eux, c'est pareil. Et donc, on a écrit cette chanson en 7 jours. Quoi. C'était fabuleux. On a fait un album qui est disque de platine, alors que c'était que du jeu. Comme quoi, parfois, c'est dans le relâchement que qu'on parvient à toucher les gens.
On va s'arrêter sur cette jolie phrase du relâchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël Faye.
Merci.
On vous retrouve pour le quatrième épisode où nous parlerons des livres cette fois, puisqu'en 2015, vous êtes parti vous installer au Rwanda avec femme et enfant. Et vous avez écrit Petit Pays, le livre. Cette fois, on parlera de l'écriture littéraire après l'écriture musicale. Merci.
Merci.
À demain. À suivre l'épisode 4, Casser le mur du silence. C'était À Voix Nue avec Gaël Faye, réalisation Gaël Gilon, prise de son Corentin Bailly, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.